ce sera donc mon cinquième pèlerinage militaire international en tant qu'évêque aux armées françaises et donc de droit président du pèlerinage militaire international où se réunissent toujours quelques milliers ou dizaines de milliers de pèlerins de 40 pays et des frères évêques, puisqu'il y a à peu près dans le monde une quarantaine d'évêques aux armées de pays différents. Bien sûr, ils ne sont pas tous là, vous en doutez. Pour des tas de raisons, en cause d'éloignement, il y a un évêque aux armées aux Philippines, en Corée, par exemple. Ce pèlerinage me tient à cœur pour de multiples raisons. D'abord, à titre personnel, en tant qu'évêque aux armées, vous le savez peut-être, mon diocèse est dispersé, grand comme le monde, que je porte sur ma poitrine, derrière la croix. Et donc, trouver, pouvoir embrasser d'un seul regard une part de une portion de mon peuple est toujours une grande joie. Et je crois que beaucoup d'autres délégations vivent la même chose que moi, pouvoir rassembler des personnes autrement que sur un théâtre de guerre. J'ai peu l'occasion, moi, d'avoir des rassemblements diocésains. Donc ça, c'est une première raison qui tient, je crois, à notre spécificité d'évêque aux armées, c'est-à-dire que nous n'avons pas de territoire particulier, mais nous avons une responsabilité pastorale sur les militaires de nos pays, et qui sont donc fatalement aujourd'hui très dispersés par nos opérations de guerre, entre autres. Et puis, ce pèlerinage me tient à cœur pour cette dimension internationale que nous portons sur le sol français. Pouvoir démontrer que la force de la prière et la force spirituelle est un lieu de rassemblement, surtout à Lourdes, qui parle aux malades et aux plus petits de nos militaires, je pense aux militaires blessés, handicapés, par exemple. Alors, parmi les points qui me tiennent particulièrement à cœur, il y a la dimension spirituelle vécue chaque année, je peux le dire, de façon toujours plus nette, au niveau international, comme dans chaque délégation. Parce que les programmes, vous savez, s'ajustent ensuite autour d'un axe, et chaque pays a son propre programme, comme nous ce matin, par exemple, nous avions notre messe d'accueil française, voilà, et les Allemands avaient autre chose. Donc, c'est d'abord donc de retrouver cette dimension spirituelle qui n'est pas exclusive des autres religions, mais qui pourrait devenir au contraire attractive de soldats ou de familles de soldats d'autres religions appartenant à nos armées et qui voudraient voir ce qui s'y passe. À manière de disciples premiers qui, ne connaissant pas Jésus, entendent leur répondre « Venez et vous verrez. Venez et vous verrez. » Donc, le souhait de mon cœur serait que Lourdes ne soit pas un lieu exclusivement catholique, mais au contraire, il soit ouvert d'abord à des frères chrétiens et puis peut-être à des frères, des camarades d'autres religions qui, sans prier comme nous, pourraient prier en parallèle de nos assemblées catholiques et puis promouvoir la paix dans la force de la prière. Alors, notre directeur me signale que nous avons un représentant du Pakistan, donc il y a toutes les chances d'être musulman. C'est un pays, si vous voulez, le catholicisme est très très peu implanté, donc les avoir parmi nous correspond aussi à une ouverture vers d'autres religions. Donc c'est très intéressant de voir que en 1986, le pape Jean-Paul II a invité les responsables religieux du monde à prier à Assise, non pas ensemble mais en même temps. Assise est un lieu évidemment de l'unité, mais Lourdes peut être aussi un lieu très important où les militaires, qui sont parfois interprétés comme des hommes uniquement de guerre, sont là pour prier en même temps, pas nécessairement ensemble, pour la paix. Alors parmi les initiatives, aujourd'hui c'en est la quatrième ou troisième édition, nous aurons toujours le samedi après-midi, puis je vais passer la parole ensuite à d'autres, de notre colloque des autorités religieuses, militaires et politiques présentes au pèlerinage militaire international, dans ce même fil, sur un thème cette année, qui est comment prévenir les conflits. Alors vous allez me dire que le militaire, c'est peut-être une de vos questions, enfin là je joue la question-réponse, hein. C'est un peu facile, je m'en conviens, parce que je suis sûr de pouvoir y répondre. Hein. Vos questions sont suffisamment sagaces pour me scotcher, mais pour me coller. Donc, il est clair que le militaire a aussi à intervenir avant le conflit. Soit parce qu'il veut le provoquer, ce qui a pu peut-être se passer au début de la guerre de 1914, soit au contraire par la force des armes, le dissuader. Donc, en lien avec le centenaire de la Grande Guerre, puisque nous sommes à l'orée du centenaire, je vous rappelle que la guerre de 14-18, il ne s'est rien passé au mois de mai 1914, de même qu'il ne s'est rien passé le 14 juillet 1914. Bon, on anticipe un peu, mais il me paraissait très important que nous puissions réfléchir ensemble dans le cadre du centenaire, mais un centenaire qui est vivant, c'est-à-dire pour nous aujourd'hui dans nos conflits, qu'est-ce qui s'est passé dans les mois ou les semaines précédant la guerre de 14? Était-elle inévitable? Et comment aujourd'hui, dans un certain nombre de situations que nous avons vécues en direct, hein, et nous vivons actuellement en Ukraine par exemple, hein, n'est-ce pas, bien comment, voilà, et en particulier, qu'est-ce qu'un militaire peut ou doit faire de sorte de travailler pour la paix, pas nécessairement en laissant faire les choses.